Bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Nous poursuivons notre exploration des événements historiques survenus au tournant des années 1000 avant notre ère, en nous intéressant cette fois-ci à la fin du Nouvel Empire en Égypte et à ce qu'on appelle la troisième période intermédiaire. Pendant cette époque, de nouvelles populations se développent et migrent sur le pourtour méditerranéen et une d'entre elles devient reconnue pour ses capacités en navigation et en commerce, vous l'avez probablement deviné, les Phéniciens. Et nous traverserons ensuite en Égée afin d'étudier un peu ce qui s'est passé après le passage des peuples de la mer, une période qu'on appelle encore de nos jours dans la tradition historiographique les siècles obscurs. À vos cahiers de notes, c'est parti! Alors, quand on parle de la fin du Nouvel Empire, on peut dire que les problèmes vont commencer surtout à partir de Ramsès VI. On voit un affaiblissement, en fait, du pouvoir royal et une montée du pouvoir des prêtres du temple d'Amon à Karnak. C'est vraiment, en fait, ce qui caractérise la fin du Nouvel Empire. Et on peut dire qu'à partir de Ramsès IX et des suivants, ben là, on a des règnes de plus en plus faibles, des pharaons moins bien perçus par la population, au point, en fait, où des gens commencent à piller la vallée des rois. Et c'est donc à cette époque qu'on va voir le transfert des momies royales pour les protéger dans une cachette à Deir el-Bahari, donc collée sur le temple de la reine Hatshepsut. Et c'est en 1881, en fait, qu'on a fait la redécouverte spectaculaire de cette cachette. Ça a été fait par le chef du service des antiquités égyptiennes à l'époque, qui était Gaston Maspero. Il savait, en fait, là, qu'il y avait une tombe qui avait été découverte. Il ne se doutait pas ce qu'il y avait là à ce moment-là parce qu'il y avait des objets, en fait, vraiment rares avec des sceaux pharaoniques de pharaons, entre autres, du Nouvel Empire, qui apparaissaient, en fait, sur le marché, notamment au Caire, mais aussi dans le sud du pays. Et là, ils vont mener plusieurs enquêtes qui vont faire en sorte qu'on va identifier des voleurs, qui vont les mener à une cachette qui était donc creusée dans le roc tout près du temple de Deir el-Bahari. Et quand on va descendre, en fait, dans cette espèce de puits, on va réaliser qu'il y a 36 cercueils et qu'on va y avoir les momies des plus grands pharaons du Nouvel Empire, dont Séti Ier et Ramsès II. Et on réalise donc qu'elles avaient été déplacées par des prêtres de la 21e dynastie qui voulaient protéger les corps des plus grands souverains de l'histoire de l'Égypte. Et donc, rendu vers Ramsès XI, ben là, vraiment, on voit, en fait, surtout dans l'iconographie, même le prêtre, le grand prêtre du temple de Karnak se fait représenter aussi grand que le pharaon. Alors ça, c'est une façon, en fait, de confronter littéralement le pouvoir royal et de montrer, en fait, que le pharaon n'a plus vraiment la place qu'il avait auparavant et que les prêtres ont peut-être plus la bonne méthode, en fait, pour gérer le pays. Et ça montre, en fait, que le grand prêtre ne se soucie plus du tout de l'autorité du pharaon. Et c'est ce qui va mener lentement, mais sûrement, vers une séparation entre la haute et la basse Égypte, ce qu'on n'avait pas vraiment revu depuis... Bon, au début, ça s'est fait... cette unification-là s'était faite sous Narmer. On a vu ça il y a longtemps. Et on avait eu quand même la séparation, entre autres, à l'époque des Hyksos. Mais on n'avait pas revu ça. Mais c'est ce qui mène à la nouvelle période intermédiaire qui, va être datée là, de 1069 à 664 avant notre ère. Et c'est quand même une importante période de transition de 400 ans là, qui va se mettre en place pour l'Égypte à partir de ce moment-là, parce qu'on va voir beaucoup, beaucoup, en fait, de changements dans l'organisation politique, la société, la culture. Un des thèmes, en fait, quand même assez important, c'est qu'on va voir une grande décentralisation du pouvoir, parce que l'ancien gouvernement central qui était à Thèbes, va, au fil du temps, commencer à être remplacé par plusieurs centres de pouvoir locaux. En fait, les plus importants au départ, ben, ça va être Tanis et Thèbes, qui, au début, en fait, de la troisième période intermédiaire, vont être deux villes qui vont gouverner, souvent même en même temps, en fait, avec chacune un peu sa force, on va dire, administrative. Tanis va être le siège du pouvoir de l'administration, on gère la population, mais avec, bon, des visées économiques, militaires, administratives, globales, alors que Thèbes, ben, va devenir avec le clergé, en fait, du temple d'Amon avec Karnak, plus une forme de théocratie où les prêtres, en fait, vont avoir l'essentiel du pouvoir. Ils vont plus gérer avec une vision de relation avec le divin, ce qui n'est pas non plus surprenant, en fait, pour l'Égypte. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? C'est qu'on va avoir une guerre civile qui va commencer dans le sud, en fait, à Kouch. On est en Nubie, sous la 22e dynastie. Et là, l'Égypte va vivre d'importants changements. Alors, on va avoir des nouveaux dirigeants africains qui vont venir à contrôler le trône pharaonique, ce qui est quand même pas rien. Et c'est ce qu'on va commencer à appeler l'époque des pharaons noirs, si vous avez déjà entendu cette expression. Parce que, à partir de la 23e dynastie, ben, l'Égypte est morcelée entre des rois autoproclamés qui vont régner à partir de différentes villes comme Tanis, mais il y en a des nouvelles maintenant qui s'ajoutent. Donc, quand je vous dis décentralisation, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a des gens qui vont s'autoproclamer à Héracléopolis, à Hermopolis Magna, à Thèbes, bien entendu, mais là, on ne parle pas de théocratie, il y a vraiment des gens qui veulent s'autoproclamer pharaon, et même à Memphis, qui était la première grande capitale, en fait, sous l'Ancien Empire. Et ça, ben, c'est une situation jamais vue, mais qui va affaiblir considérablement la défense du royaume. Et ça, ben, ça ouvre la voie à une invasion. Et elle va se faire par la Nubie, par le sud. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez avoir des dirigeants africains qui vont en venir à contrôler une bonne partie de l'Égypte et à diriger l'Égypte. Et donc, quels sont les changements, on pourrait dire, les plus importants pendant la troisième période intermédiaire? Au-delà de la décentralisation du pouvoir, on a beaucoup de migration. Et là, je les mets au pluriel. On va avoir beaucoup de gens qui ne sont pas égyptiens, des Libyens, des Nubiens, des Saïtes, qui vont se mélanger, en fait, pendant ces 400 années-là à la population locale. Et ça, ça va jouer sur l'homogénéité de la société égyptienne du passé. Et c'est sûr que ça va amener aussi beaucoup de changements du point de vue de la culture, parce que là, on va voir arriver une influence africaine et ça va se métisser. Et ça, c'est quand même assez intéressant, en fait, pour l'époque. Et ça amène une baisse de la place de l'Égypte dans les échanges commerciaux, entre autres méditerranéens, parce que là, on va avoir une économie qui est plus interne et qui est plus axée aussi sur le commerce africain. Et il faut dire que l'Égypte va être de plus en plus dominée par des hommes forts qui arrivent de la Libye, qui arrivent de la Nubie, et de différentes régions de ce qui est aujourd'hui le Soudan. Et ces gens-là vont en venir à lutter entre eux, en fait, pour dominer le pays. Et c'est sous les Saïdes qu'on va en venir avoir enfin un retour à une forme de réunification de l'Égypte et qu'on va avoir une forme de stabilité du pouvoir avant que d'autres populations étrangères viennent menacer tout ça. Là, ici, on va parler des Perses, on va parler des Assyriens, on va parler des Perses qui vont amorcer ce qu'on va appeler là, la basse époque, dont on parlera plus tard, en fait, dans les cours. Mais pour les années 1800 avant notre ère environ, intéressons-nous maintenant aux Phéniciens. Quand on parle de Phénicie, c'est un peu particulier. Ça vaut la peine, en fait, de regarder des cartes pour voir un peu qu'est-ce qu'on appelle les zones d'influence, en fait, et d'habitation des anciens Phéniciens, parce que c'est très morcelé. On parle vraiment de la zone côtière du Proche-Orient et ce qu'on appelle souvent aussi une bonne partie de ce qui est le Levant. Mais ce sont des gens qui vont occuper, en fait, les récifs, les bords de côte, mais qui vont longer tout ce qui est l'ancien couloir syro-palestinien et qui vont même aller chercher, bon, une partie de ce qui est l'Afrique du Nord. Donc, c'est quand même pas rien. Et quand on pense aux Phéniciens, bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, surtout, pensons à Astérix, entre autres, mais on pense beaucoup à une population de navigateurs et de commerçants qui vont établir des comptoirs et des colonies commerciales un peu partout en Méditerranée. Et c'est pour ça qu'ils sont reconnus pour la fondation de nombreuses villes qui sont généralement les centres commerciaux de ces colonies-comptoirs. Ce qu'il y a de malheureux, par contre, pour bien comprendre comment ils ont commencé à occuper ce territoire-là, pourquoi, aussi bien qu'on se doute que tout ce qui est l'extraction de la couleur pourpre, en fait, d'un mollusque, d'un coquillage, soit à la base de tout ça. Le problème pour nous, c'est qu'ils ont laissé très peu de documents écrits, bien qu'ils avaient une écriture très importante qui va influencer, en fait, le grec ancien et d'autres écritures par la suite. Alors, on les connaît souvent à travers les sources, mais de d'autres civilisations. On les voit beaucoup à travers d'autres personnes. Mais quand on pense aux premières grandes villes qu'ils vont fonder, qui vont devenir des ports méditerranéens absolument majeurs, ben, c'est sûr qu'il y a Tyr, Sidon, Byblos, Damas. Alors là, vous voyez vraiment, en fait, le couloir syro-palestinien. Et quand on pense à leur comptoir et plus des colonies, ben là, c'est Carthage, inévitablement, mais aussi Carthagène et même Malte. Et ce sont toutes, en fait, des comptoirs ou tous des... Ce sont tous des comptoirs ou toutes des colonies qui sont portuaires, mais qui, malgré cette espèce de fragmentation, pourquoi on va parler quand même d'une civilisation, c'est que ces gens-là sont tous unifiés par la langue, la religion, et même la façon de se gérer quand même en général, bien que, comme on parle de comptoirs et de colonies, les modes administratifs peuvent quand même varier là, entre Carthage, mettons, et Tyr. C'est sûr que c'est pas exactement la même chose. Mais donc, on n'a pas d'État unifié comme les Hittites, qui sont pas très loin, en fait, du côté du couloir syro-palestinien, mais on a plus en fait plein de petits états, mais qui, un peu comme on le verra quand on fera vraiment le monde grec, vont être donc unifiés par une culture, par une langue et une vision en fait du monde divin. Et phénicien, bien, ça vient en fait du grec poniké, qui veut dire rouge ou pourpre, parce que c'était effectivement une de leurs grandes richesses. Et c'est pour ça qu'ils vont occuper, en fait, les zones moins intéressantes de plusieurs régions de la Méditerranée, les bords de côte, les récifs, là où la mer peut être, en fait, assez menaçante, parce qu'ils vont extraire ces coquillages qui leur permettent, en fait, de produire une couleur très rare, très appréciée, en fait, des gens les plus riches de la Méditerranée, qui va être ce fameux pourpre, le pourpre royal, le pourpre, pourpre impérial, on pourrait le dire comme ça. Et en même temps, ben, ils développent assez rapidement une grande expertise en navigation. Donc, ils sont très, très bons pour construire des navires. Quand on pense, en fait, à leur ville portuaire du côté du Proche-Orient, on voit beaucoup le Liban, le fameux cèdre du Liban aussi, qui, oui, est utilisé à l'époque pour faire leurs bateaux. Et non seulement ils sont bons pour faire des bateaux qui peuvent faire de la longue distance et, s'ils sont bien navigués, résister quand même aux conditions météo qui ne sont pas toujours faciles sur la mer Méditerranée, mais pour cette raison-là, parce qu'ils commencent à développer du commerce de longue distance, les Phéniciens deviennent reconnus comme étant de grands navigateurs qu'on va pouvoir embaucher aussi lorsqu'on va vouloir avoir des gens pour conduire, en fait, piloter des navires dans des contextes de guerre. On va voir ça un petit peu plus tard, mais ça va faire partie un peu de leur réputation. Mais cette espèce de commerce de longue distance, ben, ça les transforme aussi. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ils sont un peu l'équivalent des FedEx de l'Antiquité. Parce que oui, les gens s'intéressent à la couleur pourpre, on leur en commande, mais en même temps, parce qu'ils sont capables de faire cette espèce de très, très longue distance avec leur navire, ben, ils peuvent aussi prendre des produits et les amener ailleurs. Et c'est là, en fait, où les Phéniciens deviennent intéressants. Et pourquoi on les voit beaucoup à travers le regard des autres? C'est qu'ils vont arriver dans les grands ports de Méditerranée avec des produits. Pensez qu'ils passent par la Mésopotamie, amènent du bitume, amènent des roseaux, pourquoi pas. Et après ça, bon, s'en vont du côté de l'Égypte ou s'en vont du côté de l'Égée et non seulement permettent aux gens de ces régions-là de découvrir des produits plus du ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, mais vont prendre aussi des produits de l'Égée ou des produits de l'Égypte et les envoyer ailleurs. Donc, ils deviennent en fait un peu des agents de liaison entre les cultures en Méditerranée. C'est quand même pas rien comme place, on va dire, dans l'histoire. Et c'est un peu la raison pour laquelle leur histoire est aussi liée à celle des grands empires, surtout d'un point de vue commercial. Et donc, quand commence, en fait, cette espèce d'expansion fulgurante où on va les voir occuper les régions que je vous ai mentionnées au début, ça commence essentiellement ben, vers le 10e siècle avant notre ère. Donc, on parle des années 1000 et surtout 900 avant notre ère, où là, bon, la première grande ville phénicienne qu'on peut identifier, c'est Tyr, et elle devient vraiment la plaque tournante du commerce méditerranéen jusqu'à temps qu'Alexandre le Grand la détruise. Ça va être, en fait, le plus important port de Méditerranée à partir de ce moment-là. Et là, vous allez avoir ensuite la fondation de d'autres villes et d'autres comptoirs, entre autres pour extraire la couleur pourpre, mais aussi parce que il faut que les bateaux, si jamais il y a des problèmes ou quoi que ce soit, aient différents endroits où s'arrêter pour pouvoir se ravitailler, pour pouvoir aussi être réparés si nécessaire. Et on voit quand même que ces villes-là ben, sont vraiment sur des caps protégés des vents et qui vont offrir souvent ce qu'on appelle des mouillages sûrs. Donc, c'est vrai aussi pour Byblos, c'est vrai pour Sidon, dont il reste des vestiges, j'en fais phéniciens encore aujourd'hui, bien que peut-être pas en grande quantité, peut-être pas les plus fascinants si jamais vous voulez faire du tourisme archéologique. Et des fois, ils vont en faire presque des îles quasi imprenables parce que comme ils ont une richesse, en fait, une double richesse. La première richesse, ben, c'est donc la production de cette couleur pourpre qui apparemment à produire sentait très, très fort. Et c'est aussi le fait qu'ils ont beaucoup de richesses qui leur viennent des régions qu'ils visitent et qu'ils doivent revendre ou échanger ailleurs. Donc, ils doivent protéger aussi leur cargaison. Et c'est ce qui fait qu'ils vont avoir d'importantes fortifications. Tyr est peut-être la plus reconnue de ce côté-là. Et donc, éventuellement, ben, ces villes-là vont devenir un peu des cités-états indépendantes qui vont chacune avoir leur mode d'administration. Mais comme je vous le disais, on parle quand même d'une civilisation parce qu'ils vont tous parler le phénicien, avoir le même système d'écriture, qui est un système d'écriture, cette fois-ci, assez intéressant parce qu'il est c'est un système d'écriture, en fait, de type alphabétique, mais sans voyelles. Les Grecs, en fait, vont ajouter les voyelles à un système comme ça. Donc, on n'est pas, en fait, dans un système hiéroglyphique, on n'est pas non plus dans un système cunéiforme comme ce qu'on a vu depuis les premiers cours. On arrive en fait avec des lettres, surtout des consonnes ici, qui permettent de reproduire les sons de la langue. Alors ça, c'est terriblement intéressant. On sait qu'il y a quand même une influence égyptienne dans le développement de leur système d'écriture. Et donc, chacune des villes, États, va être gouvernée soit par des rois ou une aristocratie dirigeante. Donc, on pourrait parler d'oligarchie aussi. Et elles vont faire le pont commercial entre les différents royaumes et empires de la mer Méditerranée. Donc, c'est quand même très intéressant de les voir, en fait, se promener un peu partout. Et parce qu'ils ne font que du commerce, ils ne sont pas vus comme étant des menaces. Ils sont vus positivement partout où ils passent, en fait. Et on reconnaît la vitesse de leurs navires et leur capacité, en fait, à naviguer et à faire de longues distances. Donc ça, c'est reconnu dans les sources. Et on va voir aussi que parce qu'ils voyagent beaucoup et sont à la rencontre des différentes populations de la Méditerranée, il y a un grand métissage aussi dans leur art. On va voir une influence parfois plus mésopotamienne, orientale. D'autres fois, on va sentir en fait l'influence plus égéenne dans leur bas-relief. Et l'influence égyptienne dans les bijoux, entre autres, est assez indéniable. Alors, ce métissage-là est aussi très, très intéressant. En ce qui concerne les Phéniciens, qui vont même avoir un des premiers liens commerciaux avec les Hébreux qui vont s'établir et construire la ville de Jérusalem à partir du 10e siècle aussi avant notre ère. En fait, on suspecte bien les Phéniciens d'avoir contribué à la construction du premier temple de Jérusalem sous Salomon grâce au matériel en fait que les Phéniciens pouvaient apporter sur place. On manque encore un peu de sources quand même pour le confirmer hors de tout doute, mais ils sont en fait les grandes compagnies, en fait, de messagerie et de transport à l'époque. On a quand même des preuves plus concrètes de leur contact avec les Crétois, donc la civilisation minoenne. Et, quand on lit même l'Iliade et l'Odyssée, dont on reparlera dans des prochains cours, quand on arrivera plus à ce qu'on appelle l'univers homérique, on voit, en fait, qu'on mentionne des marchands qui naviguent de port en port pour vendre leurs marchandises. Donc, sans les nommer, Homère, quand même, pointe, en fait, les Phéniciens aussi dans son œuvre. Mais la colonie comptoire, qui va être peut-être la plus importante parce qu'elle va devenir une métropole, éventuellement elle-même un royaume empire, c'est Carthage. Carthage, vraiment, qui, elle, va prendre vraiment beaucoup d'expansion et qui va commencer à devenir, en fait, un centre de pouvoir très, très important lorsqu'on va arriver davantage autour des années 300 avant notre ère. Donc, on reparlera, ne vous inquiétez pas, de Carthage plus tard. Et donc, ça nous mène maintenant pour la même période. On est toujours à peu près dans les années 1800 avant notre ère, vers le monde Égéen, parce que il se passe beaucoup de choses aussi après le passage des peuples de la mer. C'est une période qu'on va appeler les siècles obscurs. Ça fait vraiment très, très sombre. Mais pourquoi, en fait, on en est venu à appeler cette période-là les siècles obscurs? C'est que c'est une période où il n'y a plus d'écriture, en fait, dans le monde égéen. Donc, si vous vous rappelez, en fait, des cours sur les Crétois, sur les Mycéniens, ils avaient des systèmes d'écriture qu'on appelle le linéaire, linéaire A, linéaire B. Et après le passage des peuples de la mer les populations qui se séparent, s'isolent et ont très peur, en fait, de d'autres invasions. Le savoir de l'écriture, qui était surtout, en fait, détenu par les scribes et l'élite aristocratique, disparaît. Alors, c'est sûr que pour les historiens, ça devenait, surtout avant les années 80 et 90, une période pour laquelle on avait peu d'informations parce qu'on n'avait absolument aucune trace écrite. Mais grâce à l'archéologie, lentement mais sûrement, à partir des années 80, les choses ont commencé à changer et on est capable aujourd'hui de beaucoup mieux comprendre en fait cette période qui est quand même vraiment très intéressante et que je réaborderai un petit peu plus tard parce qu'on va faire en plus les années 1800 avant notre ère, mais on verra en fait la fin de cette période-là dans un autre cours également. Mais donc, parce qu'on pensait qu'on n'était pas capable vraiment de tirer beaucoup d'informations pour tracer un portrait de société, dans les années 60-70, c'est là vraiment où on va parler là, de ces fameux siècles obscurs. Mais comme je vous disais, dans les années 80, on va commencer à faire beaucoup de fouilles archéologiques pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et on doit ça beaucoup à l'Angleterre. Hein. C'est beaucoup Cambridge, en fait, qui a commencé les fouilles archéologiques pour s'intéresser à cette période beaucoup plus trouble, en fait, pour les historiens. Et ils voulaient vraiment apporter un éclairage nouveau, différent, essayer de se dire, avant qu'on arrive à la civilisation grecque en tant que telle, en Égée, il s'est passé quelque chose. Quelle est cette période de transition? Et ça va mener à des découvertes quand même majeures au tournant des années 80, dont ce qu'on appelle, sur le site de Toumba, on est en Eubée, on n'est pas très, très loin, en fait, de l'Attique et de la région d'Athènes. On va commencer à réaliser qu'il y a des centres de pouvoir que ce sont reconstitué après le passage des peuples de la mer. Parce que là, qu'est-ce qu'on observe, en fait? C'est qu'il y a eu une forme de dépopulation. On est passé, en fait, à quelque chose comme 300 sites d'habitation, notamment sur la côte occidentale de la mer Égée, à peu près une quarantaine de sites. Mais il y a des régions qui ont quand même continué à produire, à faire des échanges commerciaux, entre autres le cas du secteur de ce qui est Athènes aujourd'hui. Et vous avez d'autres régions, en fait, où on peut parler parler d'une dépopulation presque totale. Donc, les gens ont quitté, en fait, les agglomérations mycéniennes, les anciens palais-forteresses, et se sont tous isolés, en fait, dans des tout petits villages. Et peu de contacts, en fait, peut-être parce qu'on avait peur de revivre, en fait, des invasions particulièrement violentes. Alors, c'est sûr que, du point de vue archéologique, c'était assez difficile de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, mais... Comme je vous disais, dans le début des années 80, on fait une découverte en EB. C'est le site de Tumba et là, on va découvrir une tombe gigantesque et luxueuse. C'est ce qu'on appelle le Héroun de Lefkandi. Ça s'écrit L-E-F-K-A-N-D-I. Je vous invite en fait à taper ça dans vos moteurs de recherche pour voir quelques images du site archéologique en tant que tel, qu'on a daté des années 1950 avant notre ère. Et là, vous avez vraiment une tombe avec des murs en pierre et en briques crues. Vous avez comme trois espaces principaux, un porche qui devait avoir même un toit, en fait, à l'époque. On a même un portique avec des poteaux, chose qu'on ne voyait pas, en fait, pour l'époque mycénienne. Donc, c'est un nouveau style, en fait, architectural qui va peut-être annoncer un peu les premiers temples grecs qui suivront. Et à l'intérieur, ben, il y a deux sépultures. On a deux sépultures humaines, celle d'une femme qui est inhumée avec son squelette. Elle a des bijoux. D'ailleurs, elle a un soutien... à poitrine, on pourrait parler d'un soutien-gorge en or, qui est très marquant, en fait. Il est assez unique. Et on va avoir tout près les restes d'un homme qui lui a été incinéré et ses restes se trouvent dans une amphore de bronze qui a été inhumée avec une épée, une pointe de javelot et une pierre à aiguiser. On a même trouvé, en fait, des chevaux, les squelettes de quatre chevaux aussi dans cette espèce d'espace funéraire. Et bon, c'est sûr que là, on se dit, ben, c'est pas la tombe de n'importe qui. Parce que, surtout dans une période comme ça où tout ce qui était les anciennes richesses des Mycéniens, la puissance des Mycéniens s'est effondrée, les raids, en fait, associés au peuple de la mer, bon, ben, sont associés à des vols quand même probablement terriblement importants. C'est sûr qu'on a quelqu'un... un chef de clan, un guerrier, peut-être un roi, en fait, qui est inhumé à cet endroit-là avec son épouse. Et ça, c'était une découverte majeure parce que ça a permis de réaliser que on dit siècles obscurs. Mais en fait, les gens ont continué à vivre et on se sont reconstitués, en fait, des cellules politiques, administratives en très petites communautés, oui, mais on va recommencer quand même à se diriger puis à collaborer. Alors, c'est comme ça que lentement, mais sûrement au gré des fouilles archéologiques, on va en venir à diviser la période des siècles obscurs en deux grandes époques qui sont quand même assez intéressantes. Donc, deux phases, on pourrait dire, évolutives. On a ce qu'on appelle la période des mutations profondes, donc tout de suite après le passage des peuples de la mer, entre 1150 et 900 environ. Attention ici, selon les livres que vous allez consulter, les dates peuvent varier. Certains historiens vont plus faire commencer les siècles obscurs vers 1100 plutôt que 1150. D'autres vont aller pour les mutations profondes jusqu'à 850. Donc, des fois, il y a des petites variations d'une cinquantaine d'années. Et ça, c'est basé, en fait, beaucoup sur la littérature archéologique et les interprétations que les gens en ont fait. Mais je vous dirais, en grande majorité, on va parler de la période des mutations profondes entre 1150 et 900 avant notre ère. Et ensuite, une période de stabilisation entre 900 et 750. Qu'on verra beaucoup plus dans un autre cours, mais qui est la période où, là, on va commencer à réhabiter davantage les côtes, en fait, le bord de mer. On va commencer à revoir des villes qui vont émerger, des plus grandes populations qui vont cohabiter. Le commerce va redémarrer. Les Phéniciens vont arriver dans la région et vont établir des contacts aussi avec ces populations-là, ce qui va mener au retour de l'écriture. Alors, la période de stabilisation, vraiment, ben là, il y a un foisonnement qui va poser les bases de ce qui va devenir la civilisation grecque, ce qui est quand même pas rien. Mais quand on parle de la période des mutations profondes, ben c'est sûr que là, on la voit à la chute démographique. Là. Surtout, en fait, bon, la côte occidentale, c'est plus marqué, mais comme je disais, il y a des sites qui sont restés très actifs. C'est le cas de l'Attique et de la région d'Athènes, entre autres. Alors que le Péloponnèse, là, c'est une dépopulation quand même assez marquée. Et l'Argolide, la Mycénie, là, on va voir même des creux démographiques majeurs, en fait, quand on étudie les sites d'habitation pour cette époque-là. Athènes, en comparaison, ben, continue même à produire de la céramique. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même une vie économique locale qui est encore très active. Et l'agriculture continue. Il n'y a pas de crise majeure du point de vue de la productivité agricole. C'est juste que les gens vivent en très petite communauté, ne veulent plus vivre, en fait, dans une espèce d'univers de palais-forteresse où c'est indiqué, voilà, nous sommes ici, venez nous piller, venez nous attaquer. Alors, on est un petit peu plus isolés, en fait. Et ça va donner naissance à beaucoup de groupes culturels, mais qui vont parler essentiellement la même langue avec quelques variantes et qui vont s'établir un petit peu partout, même sur la côte est. Donc, maintenant, on va traverser la mer Égée puis on va aller de l'autre côté. Mais ils sont, au départ, pour la période de mutation profonde, assez isolés les uns des autres. Donc, on parle souvent de petits hameaux fortifiés avec des maisons très, très modestes pour ce qu'on a pu découvrir pour cette période-là. Et on va réaliser, entre autres, grâce à la céramique, que le monde mycénien n'est pas complètement disparu. Alors, qui, en fait, habite l'Égée pendant la période des siècles obscurs? Ce sont les descendants des Mycéniens qui vont garder de génération en génération la mémoire, en fait, de ce monde-là et surtout de leur univers religieux, ce qui va expliquer que les divinités mycéniennes que je vous avais mentionnées comme Zeus, Héra, Dionysos, Hadès vont être des divinités importantes de la civilisation grecque qui va se développer plus tard. Alors, les Mycéniens sont vraiment ceux, en fait, qui vont réhabiter, redévelopper léger après le passage des peuples de la mer. Donc ça, c'est très intéressant. Puis la céramique, en fait, la façon de produire la céramique nous le montre bien. Et on va garder, en fait, le style un petit peu là, de décor abstrait qui était assez caractéristique, en fait, des Mycéniens. Et on va commencer à utiliser de plus en plus le fer, qui est quand même assez abondant en Grèce. Donc ça, c'est une des richesses, en fait, minières, là, qu'on va en venir à exploiter beaucoup plus quand on va terminer, en fait, la période des siècles obscurs. Et le fer, ben lui, parce qu'il est abondant et facile à travailler, parce qu'il n'y a pas besoin d'alliage, on va commencer à le voir pour des objets de la vie quotidienne. Il n'est pas juste pour les armes. Et bon, archéologiquement parlant, bien, ça fait qu'on a trouvé des traces de tout ça aussi. Alors ça, c'est quand même très, très intéressant. Et parce qu'il ne nécessite pas d'alliage, que c'est plus facile à manipuler que le bronze qui est fait d'un alliage de cuivre et d'étain, bien, c'est une période aussi quand même d'amélioration technique pour les outils, entre autres. Et on se rend compte que l'inhumation, vous rappelez, quand je vous mentionnais les cimetières mycéniens, les cercles A, B, ben là, on va passer à la crémation dans beaucoup de régions, en fait, de l'Égée. Et c'est pour ça qu'on a peu d'ossements, peut-être malheureusement, pour bien confirmer les hypothèses. Dans le monde grec, en fait, à cette époque-là. Mais on voit quand même que les petites communautés sont quand même assez pauvres, assez repliées sur elles-mêmes. On voit que d'autres, par contre, se développent un petit peu mieux ou ont gardé une meilleure activité, on va dire, économique et culturelle. C'est entre autres le cas de l'île de Chypre qui, elle, est placée différemment, aussi enneigée, plus proche, en fait, de d'autres régions de la mer Méditerranée. Donc, c'est plus actif, peut-être, de ce côté-là. Site, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, qui est constamment il y a tellement de fouilles archéologiques à Chypre depuis quelques années pour mieux comprendre cette période-là et les périodes plus anciennes. Et ça nous montre que c'est toujours resté, en fait, une île de passage où les différentes populations qui naviguaient proche de l'Égée allaient finir par s'arrêter. Et ça va amener, en fait, des fabriques, une forme d'industrie, en fait, autant en poterie, en plein de choses. C'est assez intéressant, en fait, de voir ce qui se passe du point de vue des fouilles archéologiques à Chypre pour démontrer à quel point c'est resté une île pendant toute la période antique très, très, très active du point de vue production, du point de vue échanges commerciaux et même services, en fait, aux navires qui vont s'arrêter sur l'île. Et donc, on voit lentement mais sûrement, quand on arrive autour des années 900-850 avant notre ère, les gens réalisent que les peuples de la mer ne reviendront pas. La peur au gré des générations s'estompe et là, on commence à retrouver les contacts, à renouveler, en fait, les activités commerciales un petit peu partout, à établir des contacts même en dehors de l'Égée. Et c'est pour ça qu'on va commencer à parler d'une époque de stabilisation. Et ces gens-là, en échangeant, vont réaliser qu'ils se comprennent aussi pour la plupart d'entre eux parce qu'ils sont presque tous des descendants des Mycéniens. Mais la langue va évoluer vers ce qu'on appelle aujourd'hui le grec ancien. Et quand on commence à arriver vers les années 800 avant notre ère, on a de plus en plus de nécropoles, même si c'est encore beaucoup de crémation, on a des nécropoles. Et les objets inhumés nous montrent qu'on commence à avoir des familles dominante, dirigeante, qui commence à posséder des richesses. Et ça, ben, ça nous amène lentement mais sûrement vers une réorganisation du monde politique, social et économique qui va nécessiter en fait un procédé mnémotechnique pour justement garder en mémoire les échanges commerciaux et qui est en train de prendre le pouvoir et de stabiliser les différentes régions en fait du bassin égéen. Et c'est de là que l'écriture va être terriblement importante. Et grâce au contact avec les Phéniciens, bien, on estime qu'autour des années 850-800, on va commencer à voir ce qu'on appelle la naissance de l'alphabet grec, et c'est le retour de l'écriture, et ça, c'est terriblement important. Et ça coïncide avec le début de sanctuaires. On va voir que le monde religieux reprend de plus en plus sa place aussi, d'organisation d'espaces en nature qui ont une fonction sacrée. On parlera dans un prochain cours de Delphes, qui va comme émerger, en fait, de cet univers-là. Et on voit vraiment que la coopération des Grecs et des Phéniciens, ça, j'ai commencé à vous parler des Grecs, c'est vraiment la période de stabilisation, le début, les racines, avec entre autres l'écriture de ce qu'on va en venir à appeler la civilisation grecque. Alors, c'est premier grec, la coopération qu'ils vont avoir avec les Phéniciens sur le vent commercial, bien, on est pas mal certain aujourd'hui que c'est ce qui va amener au développement de cet alphabet auquel ils vont ajouter les fameuses voyelles. Mais au départ, bon, c'est un peu triste pour nous, ça nous aide toujours pas à bien comprendre les siècles obscurs parce que, essentiellement, ce qu'on a, c'est « je suis le vase de », »,« je suis l'épée de ». Donc, ce sont des textes très, très courts qui sont des textes d'appartenance, mais on va en venir lentement, mais sûrement, quand on va entrer au 8e siècle avant notre ère, dans les années 700, avoir des textes un petit peu plus longs qui vont devenir assez intéressants pour comprendre quand même comment les siècles obscurs vont lentement mais sûrement ouvrir la porte au monde des cités-états grecs. Et ça, je vais vous en parler plus en détail quand je vous ferai un cours sur ce qu'on appelle l'univers homérique. Comment à travers, en fait, l'Iliade et l'Odyssée, on commence à avoir une idée de ce qui s'est passé à la fin des siècles obscurs et comment la société était organisée et pour faire, en fait, le pont aussi vers la naissance des cités-états grecs. C'est quand même pas rien. Et donc, pour en savoir plus sur les sujets d'aujourd'hui, je vous recommande, entre autres, The Rise and Fall of Ancient Egypt par Toby Wilkinson, qui est paru chez Random House, parce que, honnêtement, son chapitre sur la troisième période intermédiaire est un des plus solides du moment. Ainsi qu'un livre illustré cette fois, je le fais pas souvent, mais parce que ça vaut la peine de voir un peu les Phéniciens à travers divers artefacts, vous avez un livre qui s'appelle Les Phéniciens, trésors d'une civilisation ancienne. Ça a été réalisé, pas juste écrit, par Enrico Acquaro et Paola De Vita. C'est paru chez White Star. Donc, si vous pouvez mettre la main là-dessus en bibliothèque, ça aide, en fait, à voir cette espèce de métissage propre à la civilisation phénicienne. Donc, je trouve que c'est terriblement intéressant. Et si vous voulez suivre mes actualités en histoire et en archéologie sur les réseaux sociaux, j'ai mes deux comptes Facebook, Evelyne Ferron, historienne, et Historiophile, qui est plus mon compte d'actualité, où je fais juste vous mettre, en fait, les articles du moment en lien avec l'histoire et l'archéologie, avec les liens brisés à cause de méta, là, en commentaire. Et je fais aussi mes actualités quotidiennes, toujours là, sur mon compte Blue Sky, là, vous avez les liens complets. Mon compte X, encore un peu, et je m'amuse avec les stories, surtout là, pour partager en fait différentes publications historiques là, via mon compte Instagram. Et si vous appréciez ces petits cours d'histoire, ben n'hésitez pas, je vous le dis, à laisser des étoiles sur les plateformes et à partager afin que des gens découvrent. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain cours.